Chapitre 17. Monsieur Veil était un homme de taille moyenne, âgé de 72 ans, portant une petite barbe blanche carrée. Il avait le geste brusque. L'âge avait un peu atténué cette verdeur. Parfois, comme s'il voulait s'en rendre compte, il faisait claquer ses doigts, cambrer la taille, se trémousser dans le vaste appartement de la rue Léonard de Vinci, où il habitait depuis 34 ans. Mais il ne faut pas juger un homme à ses manies. Il n'y avait rien dans tout cela qui sentît l'amertume ou on ne sait quelle insatisfaction. C'était clair, net, sans arrière-pensée. Au plus fort de ces espèces d'accès de colère, il gardait sa lucidité. Parfois même, il souriait. Mais si la personne présente en concluait que tout était fini, les sourcils se fronçaient de nouveau. Une scène de ces comédies légères, que M. Veil aimait par-dessus tout, se déroulait alors. Simone lui avait téléphoné le matin. Il l'avait prié de venir le prendre chez lui à 11 heures pour aller se promener au bois. Lorsqu'elle arriva, il se trouvait dans le hall en compagnie de son valet de chambre, avec lequel, pour tuer le temps, il avait une conversation comme en ont les grands hommes avec les jardiniers ou les maréchaux ferrants. Monsieur Veil avait toujours vécu à Paris. Il le regrettait, mais encore aujourd'hui, il n'eût pu vivre ailleurs. Faute de jardiniers ou de maréchaux, il se contentait de ses domestiques pour goûter les joies que donne la fréquentation des gens simples. Il les voulait tous à la campagne, ayant gardé les caractères de leur province, rien ne lui faisant plus horreur qu'un domestique parisien. M. Veil, bien qu'il dirigeât encore toutes ses affaires, menait une vie oisive. Sa promenade matinale était le moment où il aimait le mieux avoir les gens, quand ceux-ci lui étaient sympathiques. Ils descendirent l'avenue Foch. L'Arc de Triomphe, derrière soi, procure un sentiment agréable, aussi bien quand on descend les Champs-Élysées que l'avenue Foch. C'est le sentiment que l'on éprouve en s'éloignant de tous les monuments, de toutes les églises, comme s'il y avait quelque chose de protecteur, de réconfortant, dans ces travaux à l'honneur des hommes, comme si d'être capable d'ouvrages aussi désintéressés les rendait meilleurs et faisait qu'on n'avait plus besoin de se retourner pour se défendre. On apercevait, au loin, la bande grise formée par les arbres du bois, très basse, moins haute que les maisons, qu'elle empêchait pourtant de s'étendre plus loin. Il pleuvait, mais ce n'était qu'une averse, et la vie continuait gaiement. Simone marchait à côté de M. Veil, évitant les flaques que la terre de l'avenue, plus argileuse que celle de la forêt de Fombonne, n'avait pas eu le temps de boire. Quoiqu'aux approches de la vieillesse, les différences d'âge s'atténuent, les 25 ans qui séparent un père d'un enfant séparaient toujours les deux promeneurs. Simone, dont les cheveux grisonnaient, semblait être une jeune fille timide et prévenante. Elle voulait demeurer pour M. Veil une demoiselle d'Abricourt, conserver une apparente ignorance de la vie, comme si tout ce qu'elle avait appris depuis était peu de chose en comparaison de ce que savait le vieil ami de son père. Comme il y avait plusieurs mois qu'il n'avait pas vu Simone, il lui demanda si elle se plaisait toujours à Fombonne. Ce fut à ce moment qu'elle parla de Maurice. Elle le fit le plus naturellement du monde, et il eût été impossible de déceler la moindre gêne dans sa voix. C'était assez inattendu, car depuis qu'elle avait téléphoné rue Léonard de Vinci, elle était inquiète. Elle s'était rappelée que M. Veil ne s'était jamais étonné qu'elle ne lui eût pas présenté Charles. S'il avait montré si peu d'empressement à connaître son mari, que serait-ce quand il s'agirait du fils de celui-ci? Simone savait qu'il se trouve toujours des gens pour défendre une mésalliance, soit par générosité de caractère, soit par esprit de contradiction, mais qu'il ne se trouve jamais personne pour porter un intérêt quelconque à la famille du mari d'une mésalliée. Pourtant, elle avait jeté sans hésitation le nom de Maurice dans la conversation, au moment où il lui était venu à l'esprit. Devant M. Veil, tous ses scrupules s'étaient évanouis. Elle s'était rappelée que ce qu'il aimait en elle, c'était la jeune fille insouciante et généreuse de jadis. Comme en présence de tous les amis qu'elle avait gardés d'une époque où elle vivait dans une famille heureuse et opulente, il fallait qu'elle oubliât ce qu'elle avait appris au dehors. Ce ne sont pas les dangers de l'inexpérience que les familles redoutent le plus pour le membre qui les abandonne, mais les marques qu'une vie inconnue fait sur lui. De ces marques, Simone se sentait couverte. Qu'elle hésitât à prononcer le nom de Maurice en eût été une. Elle fit le portrait du jeune homme sans jamais l'appeler son beau-fils. Elle commit une autre petite lâcheté, celle de dire qu'elle ne l'avait vu qu'une fois. Ce garçon lui avait paru intelligent. Elle était persuadée que si on s'occupait de lui, si on le dirigeait, il pourrait être plus tard d'une grande utilité. M. Vail ne l'interrompit pas, mais parfaitement se contenta-t-il de dire de temps à autre. Puis, lorsque Simone, pour ne pas donner du relief à ce sujet en passant brusquement à autre chose, changea insensiblement de conversation, il eut la bonté de ne pas la laisser faire. « Tu vas lui donner mon adresse, » dit-il. « Il n'a qu'à venir un matin, vers 11 heures, chez moi. J'irai me promener avec lui, je lui parlerai, je verrai bien de quoi il est capable. » Les deux promeneurs remontaient maintenant l'avenue. L'Arc de Triomphe se dressait dans le lointain, entouré d'un peu de brume à sa base, de trois quarts, comme pour le peintre le visage qu'il s'agit de flatter. M. Vail racontait une histoire arrivée à une de ses nièces. Il prenait un grand plaisir à ce récit. Une vie entière passée dans les affaires d'argent lui avait fait voir trop de choses pour que la transformation de Simone lui eût échappé. Pourtant, il semblait l'ignorer. Il restait l'homme plus âgé qui ne parle de la vie que par sous-entendu afin de ne pas troubler une âme ignorante. Souvent, quand elle arrivait à Fontbonne, Charles l'attendait derrière la petite porte vitrée qu'un employé fermait dès qu'un train était signalé, afin d'éviter qu'un hurluberlu fût victime d'un accident, la gare n'ayant pas de passage souterrain. Ce soir-là, en descendant du compartiment, elle eut son habituel regard vers cette porte, puis elle suivit les voyageurs. L'air était plus frais qu'à Paris. Le train avait quitté la gare du Nord à 6h20. Il était 7h13 au lieu de 7h14. Une minute d'avance. En traversant les voies sous la protection d'un employé qui guettait l'express de Bruxelles, Simone aperçut, de l'autre côté de la barrière blanche délimitant les terrains appartenant à la compagnie, la place bordée de maisons basses, encombrée de cars, d'automobiles, et, au bas du ciel d'un bleu déjà froid, juste au-dessus de l'endroit où le soleil, semblable maintenant à une lunule d'ongles, se couchait, une traînée rouge et mauve de nuages, comme on en voit à la fin des journées où il a plu. Charles n'était pas là. Un instant, elle pensa à prendre une voiture. Mais comme elle n'avait pas de paquet et que la fin de cet après-midi était d'une grande douceur, elle résolut de rentrer à pied. Elle venait à peine de prendre cette décision que Charles débouchait de la rue Félix-Faure avec ce balancement exagéré des bras qu'on remarque chez ceux qui ont une infirmité quelconque aux jambes. Il se passe parfois une chose extraordinaire quand, après avoir vu du monde, beaucoup parlé, quand, après s'être agité toute une journée, on retrouve dans le calme celui qu'on a quitté le matin. On a comme la révélation d'un dévouement et d'un amour qu'on avait oublié. Ce fut ce qui se produisit quand Simone aperçut son mari. Il était en retard. Il venait à elle en se dépêchant. Ses pensées n'avaient pas été distraites de la journée. Cette hâte, cette silhouette, cette claudication, c'était celle d'un homme qui n'avait qu'une femme dans sa vie. Qu'importait donc qu'il ne fût pas, comme on dit, du même monde, qu'il n'eût ni intelligence, ni fortune, ni naissance, ni beauté, ni jeunesse, puisqu'il aimait Simone de tout son cœur. Dès qu'elle fut près de lui, elle le prit par le bras. Elle avait honte d'avoir été toute une journée gênée dans ses actes et dans ses paroles par l'existence de Charles.